France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Il s'agit peut-être de l'espace le plus scruté, le plus analysé de la géographie mondiale. Le détroit d'Ormuz, point de jointure entre la mer d'Oman et le golfe Persique, large d'un peu plus de 50 km. Espace clé où circulent 20% des flux pétroliers mondiaux, notamment depuis le début de la guerre en Iran, initiée par la coalition israélo-américaine. Le trafic dans le détroit d'Ormuz est suspendu du fait de la volonté iranienne qui l'utilise comme une arme, un moyen de pression. Conséquence, le baril de Brent a bondi de près de 50% depuis le début de la guerre. Alors, sommes-nous entrés dans une guerre énergétique? Pourquoi le détroit d'Ormuz concentre-t-il toutes les tensions actuelles? Et les Européens devraient-ils répondre à la demande de Donald Trump qui exige qu'ils prennent part à des opérations d'ouverture et de libération du détroit? Deux invités pour en débattre, pour nous éclairer surtout ce soir. Nicolas Mazouki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert des questions navales. À vos côtés, Patrice Geoffron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Merci donc à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et c'est avec vous que je commence, Nicolas Mazouki. On va évidemment parler de guerre énergétique et d'énergie au sens large dans cette émission, de géopolitique qui sera un fil rouge de vos discussions. Mais je voudrais qu'on s'intéresse un instant à la géographie. S'agit-il d'abord et avant tout d'un conflit qui a à voir avec le règne de la géographie ?
Oui, effectivement, parce que quand on regarde le golfe arabo-persique, de la même manière que quand on regarde la mer Noire, puisque c'est un petit peu la même chose, on est sur des mers semi-fermées avec uniquement un point d'accès, donc celui qui a la capacité à verrouiller ce point d'accès, finalement, a un impact militaire et donc un impact stratégique qui est extrêmement fort. Donc oui, c'est un retour de la géographie, mais finalement, toute guerre est une guerre par rapport à sa propre géographie. Donc là, on est sur des géographies, une fois de plus, hein, très spécifiques, mer Rouge, mer Noire, golfe arabo-persique. Mais finalement, quand on va regarder sur la géographie de la guerre navale de haute mer, si on pense au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique, elles ont aussi un impact qui est très particulier. Mais c'est vrai que là, dans le cas du golfe arabo-persique, et en plus, on a des précédents historiques, on a une vraie revanche de cet enjeu géographique et de cette appréhension, une fois de plus, qu'on appelle en stratégie navale des mers semi-fermées.
La géographie, bien sûr, Patrice Geoffron, est présente dans toutes les guerres, mais tout de même, ce détroit d'Ormuz, ce golfe Persique, cette mer d'Oman, le rapport et le lien entre les deux donnent un pouvoir considérable à l'Iran, et on le voit bien dans cette guerre.
Oui, alors ce qui est intéressant avec toutes les guillemets d'usage, évidemment, en tout cas ce qui est singulier, c'est l'usage qu'en fait aujourd'hui l'Iran, qui est d'aller au-delà de la menace et de l'intimidation, puisqu'au moment où on se parle, il y a tout de même une vingtaine de bateaux, des tankers, des vraquiers qui ont été frappés de telle manière à rendre crédible cette menace, et puis par ailleurs des infrastructures qui sont dans le Golfe, au Qatar, pour la production de gaz naturel liquéfié, donc qui est entravé à l'heure actuelle, qui est arrêté très concrètement en Arabie Saoudite de raffinage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait également un peu écho à ce qu'on avait vécu il y a 2 ans, mais qu'on a d'ores et déjà oublié, des tensions en mer Rouge, des tensions en mer Rouge, avec cette fois les Houthis qui sont des proxys, donc on sait des affiliés, pour le dire dans ces termes, de l'Iran, et qui avaient entravé le commerce. Alors, dans la mer Rouge, c'est non moins problématique pour des raisons un peu différentes.
Mais face au Yémen, hein.
Voilà, face au Yémen, parce que ça débouche vers le canal de Suez, et donc vers la Méditerranée, dans les deux sens. Donc, et si on étend un peu la géographie, il y a un autre point d'intérêt, espérons qu'il ne se manifestera pas dans les temps à venir, qui est le détroit de Malacca, alors qu'il lui est plus à l'est, en Asie, mais qui a comme caractéristique également de concentrer, il a cela en commun avec le détroit d'Ormuz, une partie importante des flux au quotidien de pétrole en particulier.
J'ai ma petite carte sous les yeux, hein. Le détroit d'Ormuz, c'est 55 km. C'est un espace donc extrêmement réduit, extrêmement mince, Nicolas Mazouki. D'une manière concrète, là aussi, tangible et presque visuelle, racontez-nous comment est-ce qu'on bloque un espace comme celui-ci. Comment l'Iran s'y prend-il pour bloquer ce détroit d'Ormuz?
Alors, déjà, la première chose, c'est que c'est un goulot d'étranglement, le détroit d'Ormuz, hein, c'est une espèce de grand virage l'âge, finalement. Et ce qu'il faut voir, c'est que, alors non pas par caprice de la géographie, dirais-je, mais résultat de l'histoire, l'Iran est présent quasiment des deux côtés du détroit. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment l'Iran continental qui est sur la rive nord du détroit. Mais il faut savoir que depuis une guerre relativement ancienne, qui date d'avant la République islamique d'Iran, qui s'appelle la guerre du Dhofar, les Iraniens occupent des îles, notamment trois îles qui s'appellent Abu Musa, Grande Tombe et Petite Tombe, qui sont elles plutôt côté émirien du détroit, donc, et qui sont des îles qui ont été fortifiées, militarisées, dans lesquelles il y a des capacités militaires qui avaient été implantées bien avant la guerre. Donc l'Iran, il est déjà un petit peu, entre guillemets, des deux côtés du détroit. Après, une fois de plus, on est sur un espace qui est très limité, qu'on peut atteindre avec des armes navales, des armes aériennes, voire des batteries côtières, puisqu'on parle de missiles qui ont des portées de plusieurs centaines de kilomètres sur un détroit qui fait 55 kilomètres de large. On se doute bien que si on a des missiles qui font plusieurs centaines de portées, finalement, on peut les installer même relativement à l'intérieur des terres. De la même manière, et c'est le grand enseignement justement de ces mers semi-fermées, je reviens au conflit en Ukraine, on a le retour d'une arme ancienne, facile à produire, dont le coût est très bas et qui a un effet à la fois militaire mais aussi psychologique extrêmement fort, qui est la mine navale. Donc là aussi, en mettant quelques mines navales, on n'est pas obligé d'en mettre énormément, quelques dizaines de mines navales, on peut avoir un effet qui est extrêmement fort.
Et on sait d'ores et déjà que l'Iran a utilisé ces mines. Il y a eu plusieurs papiers dans la presse, plusieurs indiscrets aussi venus du régime iranien qui ont expliqué que voilà, on était passé au minage de cet espace-là.
Alors, on sait que l'Iran a la capacité de produire des mines. Une fois de plus, hein, la mine, c'est une arme qui a très bas coût, qui est très facile à produire. Que l'Iran a la capacité d'en poser de multiples manières. Après, est-ce qu'il y a déjà d'ores et déjà des mines qui ont été mises en place? Ça, on a plutôt pour l'instant des soupçons, des bruits, des choses comme ça. Sachant que les mines, on les voit pas forcément. Vous avez des tas de types de mines qui, en fait, sont des mines qui sont posées en avance sur le fond et qui, en fait, peuvent être déclenchées à distance par divers procédés qui peuvent être des radiotélécommandes, des choses comme ça, pour remonter à un instant donné. Donc, si ça se trouve, le détroit est miné depuis très longtemps, mais en fait, on s'en est pas rendu compte jusqu'à présent et c'est des choses qui pourraient être déclenchées. Le drone aérien, c'est très visuel, ça fait un effet psychologique très fort, ça fait un effet militaire assez limité. La mine, ça fait un effet psychologique très fort à partir du moment où on soupçonne qu'il y en a et on découvre qu'il y en a. Ça fait aussi un effet militaire très fort, là aussi. Donc c'est aussi une des grandes différences par rapport au drone, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Par contre, l'effet militaire, c'est-à-dire la capacité à détruire des choses, est plus forte par les mines que par les drones.
Je reviens, Patrick Geoffrand, sur l'actualité de ce détroit. À quel point, aujourd'hui, est-il bloqué? Est-ce que certains tankers, certains navires peuvent tout de même circuler? Ou bien, circuler, c'est le cas de le dire, il n'y a plus rien à voir?
Alors, d'après ce qu'on peut en comprendre, il y a une sorte de péage. C'est-à-dire qu'il est possible cas par cas, et évidemment plutôt avec des régimes qui ont une acquaintance ou de bonnes relations avec l'Iran, d'obtenir des droits de passage. Il a été question, par exemple, du Pakistan. Alors, la Chine en direct ou indirectement, parce qu'il n'est pas toujours facile d'identifier la nature et la destination des tankers. Mais de fait, le flux n'est pas totalement arrêté. En revanche, ce qui est tout à fait clair, et c'est l'enjeu notamment des mines et de l'incertitude sur le minage, ce qui est tout à fait clair, c'est que dès lors qu'il y a un risque de cette nature, le flux, l'essentiel du flux est arrêté, tout simplement parce que les bateaux deviennent inassurables. Et en dépit des retomontades de Trump ces jours derniers...
Inassurables, pardonnez-moi, c'est-à-dire que c'est de toute façon trop dangereux pour les équipages, pour les bateaux, pour les entreprises armateurs.
De telle manière à ce que, notamment les assureurs britanniques et la Lloyd's, par exemple, qui est un acteur important dans ce domaine en matière de navigation, disent « on n'assure pas ». Et d'ailleurs, on a entendu les Américains, et très rapidement, Donald Trump dire deux choses. Premièrement, on va escorter les bateaux. Ça n'est pas le cas parce qu'il y a une intensité qui est encore excessive et qui ne permet pas de l'envisager, en tout cas dans ma compréhension. Et puis, deuxièmement, on va assurer sur des fonds américains. Mais ça me paraît également extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et puis, par ailleurs, encore une fois, pour les armateurs et puis pour les destinataires in fine de ces cargaisons, il y aurait évidemment un très, très grand risque, à la fois économique, un risque d'image également, à se retrouver en feu et avec une marée noire dans cet endroit, Nicolas l'a décrit, qui est quand même un endroit assez bizarre sur la carte, hein, de fait, et donc ça aurait sans doute des effets durables. Donc il me semble qu'à ce stade, les Iraniens, et il me semble faire avec une certaine habileté, peuvent se contenter de l'intimidation, c'est la guerre du faible au fort, donner à penser qu'il y a un risque relatif à ces mines pour que les flux soit à un niveau suffisamment bas pour que le prix du pétrole reste à un niveau suffisamment élevé pour que les importateurs ou les pays qui en sont dépendants, et de ce point de vue, il y a un maillon faible qui s'appelle les États-Unis, parce que le prix à la pompe est en train de monter aux États-Unis, c'est un facteur essentiel dans la durée de cette guerre.
Alors même que les États-Unis sont premier producteur mondial, premier exportateur de pétrole. Hein.
Voilà, il y a des mécanismes de marché qui font que le prix à la pompe est dès lors que le baril monte, le prix à la pompe monte. Et il monte d'ailleurs très significativement parce qu'il n'est pas amorti par des taxes, en tout cas moins qu'en Europe. Et donc, il y a un lien plus direct entre les yo-yo du prix du baril et le prix à la pompe. Et donc, de ce point de vue, on a un prix du gallon qui est en train d'aller tranquillement, mais sûrement vers 4 $ le gallon. Alors, vu d'Europe, ça paraît invraisemblable parce qu'un gallon, c'est 3,7 litres. Donc, c'est des prix qui sont très bas, mais des prix qui ont
monté. Pour les États-Unis, c'est énorme.
Voilà, qui ont monté sensiblement, qui étaient sous les 3 $, qui sont montés à 4. Et avec deux éléments extrêmement importants et très rapidement. Premièrement, on est à l'abord de la driving season, c'est-à-dire de la période de l'année où les Américains se déplacent le plus. Donc ils vont se confronter à ce prix plus régulièrement. Et puis par ailleurs, on est en présence de la guerre qui est la moins soutenue des 50 dernières années. Je parle sous le contrôle de Nicolas, qui connaît tout ça bien mieux que moi. Et donc, il y a une fragilité dans le soutien. Et donc, si ça doit coûter cher, ça va évidemment conduire à des tensions assez rapidement.
On a bien compris, grâce à vous deux, donc, que ce détroit était bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué au-delà du pétrole? On se focalise systématiquement sur l'or noir, mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a du gaz, de l'aluminium, des engrais. Et donc, pour l'Europe, pour la France, beaucoup d'effets indirects, Nicolas Mazzucchi.
Oui, des conteneurs aussi, puisque évidemment, depuis le développement de Dubai Port World, les Émirats sont devenus un des gros hubs logistiques du transit international maritime et donc du transit en conteneurs. La question du gaz naturel liquéfié. On a parlé de la question du pétrole brut, mais il y a aussi des produits pétroliers raffinés qui sortent, donc c'est encore une autre catégorie de produits. Dans le processus de traitement du gaz, la désulfuration, on réutilise le soufre, notamment pour fabriquer des engrais, en particulier à destination de l'Australie. Donc, finalement, il y a énormément de choses qui rentrent et qui sortent du détroit. Il ne faut pas imaginer que c'est uniquement une voie de sortie, c'est aussi une voie d'entrée. Donc, c'est vraiment
dans les deux sens. Je voudrais vous faire entendre une archive de 1984. On parlait à l'époque de guerre des tankers. On est en plein conflit entre l'Irak et l'Iran.
L'île de Karg, c'est le nerf de la guerre. Voilà pourquoi l'Irak a décidé, il y a 6 mois, de détruire tout navire qui circulerait aux environs de cette île ou qui viendrait s'y approvisionner, afin de priver l'Iran de ses ressources économiques. Mais l'Iran, menacé d'asphyxie, riposte aujourd'hui en attaquant les navires koweïtiens ou saoudiens dans le golfe Persique, car le Koweït et l'Arabie saoudite sont les alliés de l'Irak dans cette guerre. Le danger aujourd'hui, c'est de voir l'aviation iranienne attaquer directement les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Il suffirait d'un ou deux navires en flammes dans ce détroit, qui ne dépasse pas 50 km de large, pour que le trafic soit entièrement paralysé. Or, c'est par ici que passe 30% du pétrole destiné à l'Occident, 850 millions de tonnes par an. Alors, si aucune négociation n'est entamée dans la guerre entre l'Irak et l'Iran, on s'achemine vers la fermeture du détroit d'Ormuz, car aucun pétrolier n'osera plus passer par ici.
Si je vous avais demandé, Patrice Geoffron, vous auriez mis votre main à couper qu'il s'agissait d'une archive? C'est frappant tout de même, les résonances avec l'actualité.
Alors, par les temps qui courent, j'ai évité de mettre mes mains à couper, mais de fait, oui, on connaît bien cette histoire. Et encore une fois, dans nos métiers, à Nicolas et à moi, ce qui est en train de se passer, c'est un truc qu'on annonce depuis longtemps sans trop y croire, mais en tout cas pour un risque qui est un risque qui est en train de s'avérer.
Qu'annonciez-vous alors?
En tout cas, et c'était votre question d'entrée, que la géographie compte. La géographie, au moment de l'archive, était à peu près la même. Ce qu'on observe d'ailleurs, ce qui était un peu différent, c'est que les flux en pourcentage de ce qui était importé par du commerce mondial étaient plus importants à ce moment-là. Donc, il y a quand même eu des transformations dans l'économie mondiale, en tout cas dans les pays les plus avancés, qu'il faut prendre en considération. Par exemple, dans les années 70 et les années 80, on utilisait encore beaucoup de fuel pour produire de l'électricité, notamment en Europe, et ça n'est quasi plus le cas. Donc ça, c'est un élément qui est qui est important. Donc évidemment, il ne s'agit pas de considérer que les tensions étaient du même ordre continuellement. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle est vraiment d'un autre ordre.
Mais tout de même, Patrice Geoffron, du point de vue de l'histoire, on a le sentiment aussi que chaque crise énergétique, je pense évidemment aux deux chocs pétroliers des années 70, je pense également à cette guerre des tankers, je pense à ces crises aussi qui ont émaillé les années 2010, nous rappellent nos dépendances collectives européennes, notamment à ces espaces et aux États qui y sont inscrits.
Alors oui, pour nous, j'espère qu'on n'aura pas un aveuglement et qu'on n'oubliera pas ce choc rapidement. Mais de fait, si on regarde la situation française singulièrement, et en oubliant, en laissant de côté ce qui s'est passé au XXe siècle, qui était d'un ordre différent, mais on peut considérer qu'on a subi trois chocs pétroliers et pétro-gaziers en l'espace de 10 ans. Le premier, c'est ce qui donne lieu à la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, on l'a caractérisée comme une crise de la taxe carbone. Il y avait une petite taxe qui était posée sur un baril. Et le baril, il a fait x2 entre 2016 et 2018. En 2022, évidemment, l'Europe a rompu avec son premier fournisseur de charbon. Il y a eu un embargo de pétrole. Il y a eu un embargo en 2022 de diesel. Et puis, on est en train, on a pris l'engagement là de réduire à rien à la fin de l'année le gaz russe. Et puis, ce qui nous réunit là est le troisième choc. Donc, si au terme de tout ça, on comprend pas la nature de nos dépendances, l'impact sur notre société en termes socio-économiques, l'impact également sur la dette publique, parce qu'à chaque fois, évidemment, dans toute la mesure du possible, le quoi qu'il en coûte a été mis en œuvre pour répondre à ces chocs et à leur impact sur la société. Mais la caractéristique de cette crise, c'est qu'elle arrive à un moment où on est au bout de ces ressources qu'on peut mobiliser, d'où l'anxiété, d'où ce qu'on voit et qui est en train de devenir un marronnier, voilà, c'est que à la pompe. Et puis nos concitoyennes et concitoyens qui s'émeuvent de voir le prix passer au-delà de 2 euros.
Le président états-unien Donald Trump qui demande de l'aide pour intervenir et libérer ce détroit d'Hormuz, vous allez l'entendre, qui n'ose pas vraiment demander de l'aide.
We'll give you a list. Some are very enthusiastic and some are less than enthusiastic.
Je vais vous donner une liste des pays qui assureront la sécurité du détroit d'Hormuz. Certains sont très enthousiastes, d'autres le sont moins. Et je suppose que certains refuseront de le faire, alors que nous les protégeons depuis environ 40 ans. Pour un coût de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Nous sommes la nation la plus puissante du monde. Nous n'avons pas besoin d'eux. Mais c'est intéressant. Dans certains cas, je le fais non pas parce que nous avons besoin d'eux, mais parce que je veux voir comment ils réagissent. Parce que je répète depuis des années que si jamais nous avions besoin d'eux, ils ne seraient pas là. Pas tous, mais ils ne seraient pas là.
Cet après-midi, Donald Trump s'est dédié puisqu'il a expliqué qu'il n'avait plus besoin de l'aide des Européens. Bref, Nicolas Mazzucchi, au-delà de ces tergiversations, hésitations, expliquez-nous comment sécuriser un espace comme celui-ci, militairement et techniquement.
Alors, c'est une sécurisation qui est très complexe, mais qui n'a rien à voir ou qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on pouvait imaginer en termes de convoi, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, un peu l'image qu'on avait de la sécurisation du commerce de cette époque-là, c'est-à-dire faire des convois de bateaux avec des navires militaires, un devant, un derrière et un de chaque côté. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une menace qui est tridimensionnelle, qui donc est au-dessus de la surface, en surface et sous la mer. Donc, ça veut dire que pour l'ensemble des marines et des forces armées qui participeraient à cette sécurisation, il faut donc disposer de capteurs et d'effecteurs dans ces trois dimensions-là. Alors, quand vous avez des navires de surface, habituellement, vous avez la capacité à regarder ce qui se passe en surface et ce qui se passe au-dessus, ce qui se passe dans les airs. Notamment, les Américains ont deux groupes aéronavals dans la région. Ils ont énormément de navires qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la lutte au-dessus de la surface, donc, la défense aérienne. Donc ça, ils ont tout ce qu'il faut. Le problème aujourd'hui, c'est plutôt de faire face à cette menace submersible ou sous-marine qui donc inclut les mines. Et où là, il faut des capacités de lutte anti-sous-marine très particulières, donc il faut des navires qui sont spécialisés pour faire ça, et notamment des navires de guerre des mines. Et c'est un peu là que le bât blesse, notamment côté américain, c'est que la guerre des mines, c'est une capacité qui a été quasiment abandonnée par les États-Unis à la fin de la guerre froide, en disant, écoutez, les mines, ça a tendance à disparaître, la mine est une arme du passé, etc., etc., etc. Donc les États-Unis ont totalement désinvesti ce segment de la guerre des mines, et aujourd'hui, à l'intérieur de l'OTAN, ceux qui disposent de la capacité de guerre des mines, ce sont les alliés européens, donc les Français, les Italiens, les Britanniques, les Belges, les Néerlandais, les pays de la zone baltique, parce qu'ils sont confrontés à cet enjeu-là de manière très forte, les Suédois, les Finlandais, etc., etc.
Donc, lorsque Donald Trump explique qu'il n'a pas besoin de l'aide des Européens, qu'il change d'avis et qu'au fond, c'était juste pour tester la capacité de ses alliés à réagir, il a tort, il a stratégiquement tort.
Alors, tout dépend de la question de la menace mine. C'est-à-dire que s'il y a une menace mine avérée, ce sera très difficile pour les États-Unis tout seuls, eu égard à ce qu'il leur reste de capacité de guerre des mines, de le traiter. Voilà. Après, s'il n'y a pas de menace mine avérée, potentiellement, la capacité de l'US Navy, qui reste quand même la première marine mondiale, pourrait être en mesure de faire quand même énormément de choses. Donc, la question de la sécurisation de ce détroit d'Ormuz, elle se pose véritablement vis-à-vis de la réalité de la menace à laquelle les navires militaires et civils seraient confrontés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité notamment de guerre des mines, le déminage naval, c'est quelque chose qui se fait très difficilement sous le feu ou sous une menace militaire forte. Donc ça veut dire que si jamais il y avait une menace mine et si jamais il fallait entreprendre des opérations de guerre des mines, il serait quand même extrêmement difficile d'imaginer ça alors qu'il y a des missiles et des drones qui volent dans tous les sens. Donc ça veut dire qu'il faudrait que la situation militaire globale soit très apaisée.
Je vous pose une question un peu piégeuse, Patrice Geoffron, parce qu'elle est extrêmement large. Qui a le plus besoin, dans l'urgence justement de cette situation du détroit d'Ormuz, qui a le plus besoin aujourd'hui de voir la situation changer, de voir ce détroit réouvert et libéré?
Bon, nous, Européens, à l'évidence, on n'est pas bien placés pour des raisons qui sont assez différentes de celles qui prévalaient en 2022. En 2022, le risque était de se retrouver dans le noir à un moment. Encore une fois, du fait de l'intensité des relations économiques avec la Russie et de son arrêt dans différents domaines en l'espace de quelques mois.
Vous faites référence au début donc de la guerre en Ukraine.
Au début de la guerre en Ukraine. Là, c'est un peu différent parce que de fait, nous nous approvisionnons assez peu au Moyen-Orient, à quelques exceptions importantes près, pour le diesel. Et puis pour le kérosène. Donc on voit, et c'est la raison pour laquelle on a vu apparaître au cours de ces dernières semaines, montant en flèche et au-delà du prix de l'essence, du sans-plomb, le prix du diesel. Et donc nous, on est par ailleurs dans une attente qui est liée au fait que voilà, on a une fragilité liée au fait qu'on a par ailleurs très peu de production dans ces domaines. Et donc il y a un choc de prix qui pourrait nous menacer et qui serait évidemment très dommageable parce qu'on est à peine convalescent après le choc de 2022. Mais me semble, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, qu'il y a également un acteur, c'est la raison pour laquelle Trump s'exprime dans ces termes, certes un peu erratiques, mais en appelant à l'aide, hein, ça veut dire à peu près ça dans ma compréhension. Les États-Unis n'ont pas les moyens d'une guerre longue, et les Iraniens le savent. Alors ce ne sont pas des moyens militaires, je ne me prononcerai pas sur ce point, ce ne sont pas des moyens économiques de financer cette guerre, ce sont, encore une fois, c'est l'acceptabilité de cette guerre.
Donc un rapport à l'opinion.
Voilà, un rapport à l'opinion dans un contexte dans lequel les tensions issues, alors à la fois du mandat de Biden, mais de l'année 2025, et compte tenu d'un certain nombre de décisions prises par ailleurs, notamment sur les droits de douane ou sur les frais de santé, donc il y a une tension au sein des États-Unis sur l'affordability, c'est-à-dire sur le pouvoir d'achat, qui est assez anxiogène, qui est un des termes des élections à venir. On n'est pas très très loin, en tout cas cette année va être celle des midterms. Et on a vu que je crois qu'il y a une demi-douzaine d'élections à caractère plus local qui ont été perdues aux États-Unis par les républicains et que très généralement la question du prix de l'énergie était au cœur de ces questions.
Nicolas Mazzucchi.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, et effectivement tout ce qu'a dit Patrice, c'est vrai, les pays les plus touchés directement, ce sont les pays d'Asie. Alors évidemment, premier rang desquels, la Chine. Mais
du point de vue strictement économico-social, cette fois-ci.
Du point de vue des approvisionnements, c'est-à-dire si vous regardez les flux énergétiques, voilà, bien sûr. Mais quand vous regardez les flux énergétiques sortant du détroit d'Ormuz, où vont-ils? Ils vont très majoritairement en Asie. On s'est beaucoup focalisé sur la Chine, et à raison, puisque la Chine, finalement, c'est le premier consommateur de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel qui sort du détroit d'Ormuz. Mais ce qu'il faut voir aussi, et pour aller dans le sens de Patrice, c'est que, géopolitiquement parlant, une fois qu'on a passé cette question de la Chine, qui sont les autres? Et les autres, ce sont les alliés des États-Unis. C'est l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, l'Australie d'une certaine manière, si on prend la question des engrais. Donc ça veut dire aussi que ce qui est en train de se passer a un impact direct sur les pays que les États-Unis veulent se garder les plus proches et les plus forts dans la zone Indo-Pacifique. Mmh. Et notamment le cas de l'Inde est un cas assez particulier, puisqu'il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, Donald Trump a fait pression sur l'Inde pour que les Indiens arrêtent d'acheter des hydrocarbures russes avec une menace de 50% de droits de douane. ce que les Indiens ont fini par accepter, mais sachant que les Indiens se fournissaient de manière extrême, et se fournissent toujours, hein, de manière extrêmement forte dans la zone du détroit d'Ormuz. Donc la question de la relation américano-indienne aujourd'hui, déjà qu'elle était relativement complexe avec l'acteur russe au milieu, là, avec ce qui est en train de se passer, elle risque de devenir encore plus fragile.
Je reste un instant en Asie, Patrice Geoffron. Est-ce que c'est aussi un moment pour la Chine de prendre la mesure de l'état de ses dépendances et de ses intérêts à l'égard de cet espace moyen-oriental ?
Alors oui, c'est une prise de conscience qui est déjà assez largement en marche. Hein, si on regarde en termes industriels la puissance de la Chine en matière de batteries de véhicules électriques, enfin il y a derrière tout ça évidemment une politique industrielle, une vision dans ce domaine, mais il y a également une détermination à réduire des dépendances en matière de pétrole. Il y a une partie importante des flux d'importation qu'évoquait Nicolas, qui est destinée alors d'une part à l'industrie, mais assez largement par ailleurs à la mobilité et au transport. Donc j'allais dire, de ce point de vue, il me semble que la prise de conscience de ces fragilités, elle est plus évidente dans différents endroits en Asie et en particulier en Chine qu'aux États-Unis, qui sont en train, avec la politique américaine du drill baby drill, qui est un truc quand même assez étrange, disons-le, mais d'aller plutôt à rebours, de se mettre à l'abri de ces chocs. Et en fait, l'histoire est en train de monter à l'heure actuelle que les États-Unis, tout en étant le premier producteur mondial de très très loin en matière à la fois de pétrole, de gaz et de ses dérivés, de fait, est une économie qui va être fragilisée, ou en tout cas un espace politique qui va être fragilisé par le choc.
Je reviens un instant sur cet espace, la raison d'être de cette discussion, le détroit d'Ormuz qui fait donc la jointure entre la mer d'Oman et le golfe Persique. Qu'avons-nous retenu, Nicolas Mazouki, de l'opération Aspide qui était là dans un autre espace? Ça vous fait sourire, mais vous allez nous en parler. Alors, cette opération menée par l'Union européenne, d'abord, qu'avait-elle permis face aux Houthis, face à la protection contre les Houthis, et quelles leçons en avons-nous tiré dans la défense de ce type d'espace en mer et restreint en mer?
Bien sûr. Alors, je vais faire un petit pas de côté, juste apporter un petit complément sur la question de la Chine. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en fait, donne raison à Xi Jinping. Quand Xi Jinping, quand il lance Belt and Road Initiative, dit la Chine est face à deux dilemmes stratégiques, c'est le nom qu'il leur applique. Le premier s'appelle Malacca, le deuxième s'appelle Ormuz.
Donc c'est identifié.
C'est identifié.
C'est clair, c'est dit, c'est écrit.
C'est écrit, et c'est pour ça aussi que la Chine, depuis maintenant plus d'une décennie, essaie, tant qu'elle le peut, et c'est très compliqué, de continentaliser ses approvisionnements énergétiques par la Russie et l'Asie centrale, donc pour ne plus être dépendant que par la mer, parce qu'aujourd'hui la Chine est très dépendante par la mer. Mais voilà, ça veut dire que c'était quand même très identifié, très pris en compte, et que Belt and Road Initiative, finalement, naît en partie de cette question d'Ormuz.
Sur Aspide, maintenant, on change d'espace. Hein,
exactement.
Il faut vous suivre.
Exactement. Sur Aspides, là aussi, je vais faire un tout petit pas de côté. Il faut voir qu'avant Aspides, donc Aspides est déclenché à la suite des agressions que les Houthis font à la fin de l'année 2023 sur les navires en mer Rouge, qui sont des navires qui, selon les Houthis, sont destinés à, soutiennent de manière indirecte ou participent de l'économie d'Israël. Donc on est dans les suites du 7 octobre et les Houthis agissent en disant tout ce qui ressemble de près ou de loin à des intérêts israéliens va être ciblé. Et pour ça, ils utilisent des données spatiales ouvertes qu'on appelle les données AIS auxquelles n'importe qui peut avoir accès. Sauf que avant Aspides, donc Aspides est lancé en fait au tout début de l'année 2024 en réponse à ces événements de fin 2023, vous aviez déjà une opération européenne qui se passait dans le détroit d'Ormuz, qui existait déjà. Vous aviez deux opérations. Vous aviez une opération qui s'appelait Atalanta, qui était une opération, ce qu'on appelle PSDC, qui, elle, est une opération très ancienne sur la partie, on va dire, corne de l'Afrique, Bab el-Mandeb. Et dans le même temps, avait été créée une opération de quelques pays européens menée par la France qui s'appelait Agenor. Et Agenor, c'était la sécurisation du détroit d'Ormuz. Et l'Union européenne, à la fin de 2022, envisageait, au travers d'un conseil qui s'appelle la présence maritime coordonnée, en fait, de rapprocher ces deux opérations en disant l'Union européenne va sécuriser en fait ce grand cadran qui est le nord-ouest de l'océan Indien.
Donc trois opérations, Nicolas Mazouki, qu'en avons-nous retenu? En quoi, si je puis dire, notre retour d'expérience dans ce domaine nous donne peut-être aussi une capacité à défendre le détroit d'Ormuz aujourd'hui?
Je reviens sur Aspides, parce qu'Aspides, c'est vraiment l'opération qui est particulière, parce que autant Atalanta et Agenor se passaient dans un temps de paix et de sécurité relative, c'était plutôt des agents de piraterie, des choses comme ça, Aspides, c'est une opération de guerre. C'est-à-dire qu'Aspides, vous avez des navires civils et militaires qui sont ciblés directement par des missiles et par des drones. Et là, militairement, c'est des choses où on a énormément appris en termes de retour d'expérience, puisque les navires européens à commencer par les navires français, mais pas exclusivement, ça a montré d'une part la capacité de mobilisation de l'Union européenne de son outil militaire, une fois de plus dans une opération de guerre, parce qu'il y a eu des frappes. Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des missiles qui ont été tirés pour intercepter des drones, intercepter des missiles balistiques de la part de beaucoup de navires européens. Ça nous a permis de mettre à jour des procédures militaires, de mettre à jour l'interopérabilité entre les alliés européens, de mettre à jour des équipements, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des équipements qui étaient plus ou moins adaptés pour faire certaines choses, d'être capable de gérer une menace drone. On n'avait jamais été confrontés, nous, Européens, auparavant à une menace drone relativement massive. Aspides nous a appris ça.
D'un mot, très court, c'est cela aussi que Donald Trump viendrait chercher en requérant notre aide ?
Alors, pas forcément, puisque les Américains avaient, dans le même temps qu'Aspides, eux, une opération au même endroit, qui s'appelait Prosperity Guardian. Et la grande différence entre les deux, c'est que Prosperity Guardian, c'est une opération militaire offensive où les Américains frappaient le sol du Yémen. Aspides, c'est une opération militaire de liberté de la navigation dont le simple but était de maintenir la liberté de la navigation et du commerce.
Le directeur exécutif de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol.
The war in the Middle East is creating the largest supply disruption in the history.
La guerre au Moyen-Orient entraîne la plus grande pénurie d'approvisionnement de l'histoire du marché mondial du pétrole. Le volume de pétrole actuellement indisponible dépasse déjà celui des pertes enregistrées lors du choc pétrolier de 1973 et celui de toutes les autres pénuries majeures que nous avons connues depuis. Les pays membres de l'AIE mettent environ 400 millions de barils de pétrole sur le marché afin de compenser la perte d'approvisionnement résultant de la fermeture effective du détroit d'Ormuz. Mais il ne s'agit pas d'une solution durable. La seule condition pour rétablir la stabilité des flux de pétrole et de gaz est la reprise du transit par le détroit d'Ormuz.
L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui libère tant de barils de pétrole, 400 millions, Patrice Geoffron, pardon, à quoi cela sert-il ? Est-ce qu'on peut mesurer des effets concrets sur le prix, évidemment, d'une Brent, mais au-delà ?
Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que le jour de cette annonce, le baril était à 90 et le lendemain, il était à 100. Donc, ça n'a pas modifié drastiquement la perspective.
On aurait pu se dire que cela aurait augmenté plus encore sans l'intervention de l'AIE.
Une manière de répondre à votre question et de dire que c'est très difficile. Mais en tout cas, observons que ça n'a pas, encore une fois, modifié la donne et que, entre-temps, ce qui a été déterminant et qui fait que le prix est assez haut, il n'est pas follement haut non plus. Il est monté à 130 en 2022, il est monté à la fin des années 2000, il est monté à 150. Donc, on a une sorte d'ancrage aux alentours de 100 et pour l'heure, eh bien, les questions que se posent les opérateurs sur ces marchés sont exactement celles qu'on se pose depuis le début. Depuis le début de notre émission, de notre discussion, à savoir, est-ce qu'il va y avoir un minage ou pas ? Et à ce moment-là, évidemment, le prix pourrait monter. Est-ce qu'on est dans un poker menteur ? Et auquel cas, il pourrait y avoir une guerre qui serait, disons, une guerre de mars avec une reprise progressive du trafic ensuite, avec des forces navales probablement, mais en tout cas dans une situation où le pic d'intensité de l'affrontement aura été passé, les questions qui sont déterminantes sont celles-là. Donc on observe qu'on est dans un entre-deux. Alors naturellement, du côté iranien, et j'allais dire c'est de bonne guerre en mettant évidemment beaucoup de guillemets, évidemment, il y a la volonté d'effrayer. C'est l'essentiel de la stratégie iranienne et dans ce domaine. Donc d'effrayer en disant qu'il y a une menace, que le prix monte à 150 et à 200, etc. Et puis de crédibiliser cette menace, non pas uniquement en frappant des bateaux, mais en frappant également des infrastructures qui vont être importantes pour la suite. Le gaz naturel liquéfié au Qatar, dès le début du conflit, une raffinerie en Arabie Saoudite, ce qui crée une forme d'incertitude également sur l'après-guerre. Alors, je ne sais pas très bien ce que veut dire exactement l'après-guerre et à partir de quel moment, mais en tout cas, le moment où on aura une forme d'apaisement, il y aura un effet de traîne dans les conséquences, très probablement.
Nicolas Mazouki, sur cette rescousse apportée par l'AIE.
Oui, effectivement, bon, je suis tout à fait d'accord avec Patrice. On peut pas mesurer l'effet, puisque de toute façon, le prix du baril est monté. Mais ça montre quand même que les pays de l'OCDE, puisque l'AIE, en fait, une agence qui dépend de l'OCDE, ont été capables de se coordonner. Puisque c'est la coordination des États membres qui a permis de prendre cette décision et de dire, OK, effectivement, on vous autorise.
Agence installée à Paris, d'ailleurs.
Agence installée à
Paris. À côté de la maison de la radio.
Exactement. Donc, on vous autorise à aller utiliser cette réserve stratégique, puisque c'est la décision de l'AIE qui s'applique aux États membres. Donc, ça veut bien dire qu'il y a eu une forme de coordination des acteurs entre eux, et le symbole, on va dire, géopolitique fort est déjà là, est déjà dans cette coordination. Après, effectivement, la réserve AIE, c'est 90 jours de consommation courante de produits pétroliers. Voilà. C'est important, mais ça ne couvre pas non plus l'ensemble des choses.
L'autre décision qui, elle, provoque plus d'émules, plus de débats, c'est la dérogation de 30 jours valable jusqu'au 11 avril, annoncée le 13 mars par les États-Unis, permettant au pays d'acheter du pétrole brut et des produits pétroliers russes visés par des sanctions actuellement bloquées en mer. Qu'est-ce que cela suscite, j'allais dire, comme réaction et comme analyse,
Patrice Geoffroy ? C'est un grand sujet, évidemment, de préoccupation
c'est troublant quand même.
Pour les Européens et pour les Ukrainiens, évidemment, en tout premier lieu, parce que, alors bon, d'une part, les Européens ne s'associent pas, il y a toujours un embargo à date, de fait, mais par ailleurs, évidemment, pour la Russie, il y a à minima un effet d'aubaine et un effet qui est sans doute très... très important en termes de finances publiques et de capacité à financer la guerre. Si on fait un petit calcul simple, ça conduit à considérer que pour chaque augmentation de 10 dollars du prix du baril, et là il y a un bon delta de 30 dollars, eh bien ça va rapporter de l'ordre de 2 milliards par mois de plus à la Russie. Donc là, on a potentiellement au mois de mars, eh bien, un gain supplémentaire de l'ordre de 6 milliards qui, de fait, est assez considérable et qui intervient à un moment où la Russie avait des problèmes aigus et qui vont pas totalement se résoudre, évidemment, en termes de finances publiques, de capacité à financer et à soutenir l'effort de guerre. Et donc tout ça, évidemment, arrive au pire moment pour l'Ukraine.
On parle, je parle en l'occurrence, par ailleurs, des Européens comme s'il s'agissait d'un bloc, Nicolas Mazzucchi. Ce qu'il faut immédiatement précisé, c'est qu'il n'y a pas de consensus parmi les États membres de l'Union européenne sur ces décisions, cette décision états-unienne de lever certaines sanctions à l'égard du pétrole russe.
Non, effectivement. Alors, c'est effectivement une décision qui est plutôt tournée vers les pays d'Asie au départ, puisque, comme le rappelait Patrice, en fait, il y a des sanctions de l'Union européenne.
Mais tout de même.
Sachant que certains pays ont, par justement dérogation de l'Union européenne, la possibilité de ne pas appliquer les sanctions. Là aussi, ça existait aussi déjà. Et effectivement, on a un certain nombre de pays européens, notamment les pays qui sont les pays dits enclavés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'accès direct à la mer. On pense évidemment à la Hongrie en tout premier lieu, mais à la Slovaquie aussi, qui ont regardé finalement cette question-là en se disant ne faudrait-il pas que nous revoyions notre position ou que l'Europe, donc l'Union européenne, revoie sa position vis-à-vis des hydrocarbures russes. Donc le risque... bien évidemment, qu'on identifie par rapport à ça en fonction de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est un affaiblissement justement du consensus de l'ensemble des États membres européens vis-à-vis des suites à donner en termes de sanctions et en termes géopolitiques globales par rapport à la Russie. Situation dans laquelle d'ailleurs Vladimir Poutine s'est tout de suite engouffré en disant « mais nous, la Russie, sommes tout à fait prêts à vous fournir des hydrocarbures, mais nous voulons des partenaires de confiance ». C'est dans les termes qu'il a employés.
Les partenaires de confiance, Patrice Geoffroy, c'est ce que vous observez, c'est ce que vous constatez également, l'effritement de ce consensus européen sur le sujet ?
En tout cas, il y a à 4 ans
d'intervalle... Consensus de façade, par ailleurs.
Oui, deux chocs qui sont massifs et qui notamment ont eu un impact sur l'industrie européenne. Donc cette question évidemment se pose et moi il me semble que ce qu'il faut avant toute chose que nous Européens on parvienne à regarder, puisque vous nous invitiez à faire de la géographie, il faut regarder la carte du monde. Sur la carte du monde, il y a trois grandes zones très denses en termes de production d'hydrocarbures. La Russie, le Moyen-Orient qui est en feu, la Russie évidemment avec laquelle on n'a pas les meilleures relations du monde, et puis par ailleurs les États-Unis de Trump. Et si dans ce contexte, par folie, on remettait en question nos efforts de décarbonation, je pense qu'on se condamnerait à revivre ce qu'on est en train de vivre.
Merci beaucoup pour ce tour du monde à vous deux, avec pour point de départ le détroit d'Ormuz. Nicolas Mazzucchi, expert des questions navales, Patrice Geoffroy, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. On recommande la lecture de l'article que vous signez dans la revue en ligne The Conversation. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral. À suivre après le journal, on va rester dans la région, en Iran en l'occurrence, avec une question: les Kurdes ont-ils le destin du régime iranien entre leurs mains ?